Tout d'abord, on remercie Sandro Landi, mais aussi tous ceux qui ont participé à la construction de ce programme, de ce mois à Montaigne. Et donc, on va procéder un peu à l'improviser, mais je pense qu'il y a une structure qu'on a déjà discutée, donc j'espère qu'on ne va pas procéder comme ça sans savoir où on va. Mais en fait, on va un peu, vous voyez déjà par le titre, vers le passé. Et je vais juste dire quelques mots à titre d'introduction, mais aussi peut-être pour surprendre un peu Carlo sur cet aspect-là. Vous le savez ou vous ne le savez pas, peut-être que Carlo Ginzburg vient assez récemment de fêter ses 80 ans. Alors, on a raté l'occasion à Florence, on voulait faire quelque chose, ça, c'était pas possible. Mais donc, c'était quand même une occasion aussi pour moi de revenir à une question que m'a travaillé depuis un certain temps, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai demandé à Carlo, que j'ai demandé un certain nombre de fois, si jamais il avait un projet d'écrire ses mémoires, il disait non, non. Qu'il n'avait aucune intention d'écrire ses mémoires, il ne voulait pas revenir sur son propre passé. Mais je pense que néanmoins, il y a d'autres façons de faire, de façon, disons, plus indirecte. Donc, plutôt que de faire un moi Carlo Ginzburg, on a plutôt l'idée ici de faire ça par rapport à une espèce de jeu de va-et-vient entre le passé. Les gens qui sont donc dans notre passé, parfois dans notre passé commun, parfois dans le passé de l'un ou de l'autre, qui nous ont influencés d'une façon ou d'une autre. Et voilà un peu le jeu qu'on va pratiquer aujourd'hui, c'est-à-dire on va progressivement évoquer une série de noms. Et parmi ces noms, je pense qu'il y a des noms qui sont assez connus de tous. Puis il y aurait des noms aussi moins connus, mais qui sont néanmoins très importants, il s'avère, pour nous et certainement pour l'un ou l'autre d'entre nous. Donc c'est un peu comme ça qu'on va procéder par rapport à ces ancêtres. Vous voyez, moi je suis indien, je viens d'un pays où on pratique toujours la culte des ancêtres, comme la Chine. Ça ne se fait pas tellement en Europe. On n'est pas là aujourd'hui pour pratiquer la culte des ancêtres, mais on est quand même là pour parler d'un certain nombre de nos ancêtres. Alors, il faut dire aussi que les ancêtres dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas les ancêtres dans le sens, disons, généalogique. Ça, ce sont des ancêtres qu'on ne choisit pas, normalement. Mais ce sont plutôt ce qu'on peut appeler, selon un peu la formule de Goethe, mais un peu modifiée, les ancêtres électifs, ce qu'on a choisi en tant que nos ancêtres. Voilà, donc je vais peut-être commencer avec un nom, parce que ça fait longtemps qu'on parle, qu'on discute. On a été collègues ensemble pendant un certain temps à Los Angeles. Et je me rappelle que quand j'ai eu les premières conversations avec toi, il y a à peu près 15 ans ou un peu plus, il y avait un nom qui est venu. Et à l'époque, moi, je n'étais pas tellement au courant de ce nom. Donc, je suis allé chercher un peu dans la bibliothèque. Et c'est le nom de Delio Cantimori. Donc, c'est quelqu'un qui apparemment était très important pour toi.
Tout à fait.
Au moment quand tu as commencé à penser à une carrière en tant qu'historien. Voilà. Oui. Donc, qui était Delio Cantimori et pourquoi était-il si important?
J'étais étudiant, j'étais entré à l'école normale supérieure de Pise, et c'était en 1957. Et un professeur qui venait de Florence, il enseignait à Florence, Delio Cantimori, est venu pour coordonner un séminaire. Et je dois dire que je ne savais rien de lui, j'avais entendu son nom. On m'avait dit que c'était quelqu'un de très important, mais je n'avais pas lu son grand livre qu'il avait publié en 1939, « Hérétiques italiani del Cinquecento », hérétiques italiens du XVIe siècle, hérétiques dans le sens d'être hérétiques, soit pour les catholiques, soit pour les protestants. Et alors, j'ai, à l'époque, lorsqu'il est venu, je l'ai vu, j'ai eu l'impression d'un vieillard. Il était rond, avec un barbiche blanc, un visage sévère, mais il y avait des éclairs d'ironie.
Mais quand il avait en réalité quel âge? Parce que vous savez, quand on est jeune, on a l'impression que tout le monde est vieux.
Oui, ah, tout à fait, tout à fait. Bonne question. Alors, il avait 53 ans. C'est incroyable, maintenant, alors... De toute façon, et pourtant, je vais dire quelque chose sur sa trajectoire dans quelques minutes. Mm-hmm. Et il y avait quelqu'un, l'historien de la littérature italienne, Carlo Dionisotti, vraiment un chercheur extraordinaire, qui l'a vu après la guerre, et il a parlé de la prodigieuse vieillesse, le prodigieux vieillissement de Cantimori. Ce qui était lié à sa trajectoire, je vais dire quelque chose là-dessus. Alors, il est venu, et alors il a donné un séminaire sur les considérations sur l'histoire universelle de Burckhardt. Et alors, il y avait un public mélangé, une vingtaine de personnes autour de la table. La force de l'École normale supérieure de Pise, c'est qu'il y a, disons, les étudiants qui commencent avec, disons, les doctorants, c'est mélangé. Alors, il a posé la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît l'allemand? Il y avait quelqu'un qui connaissait l'allemand, mais il a dit, bon, on va de toute façon comparer les traductions. Et alors, il a commencé les séminaires. Ça a duré une semaine, je pense 3 heures par jour. À la fin de la semaine, on avait lu 20 lignes. Alors, pour moi, c'était une révélation. C'est seulement après peut-être 20 ans, même plus, que j'ai croisé d'une façon indirecte une phrase qui, en fait, a été prononcée par Nietzsche lorsqu'il était encore philologue, pas philosophe, dans sa leçon inaugurale à l'Université de Bâle. Alors, Nietzsche a dit « La philologie, c'est l'art de lire lentement. » Alors, pour moi, disons, l'expérience de la lecture lente que j'ai essayé de transmettre à mes étudiants pendant ma vie d'enseignant était liée à Cantimori. Alors, lui, il avait eu une vie compliquée et... compliqué, mais c'est un euphémisme. Et sa famille, alors son père était un disciple et biographe, mais disciple indirect de Mazzini, de Giuseppe Mazzini. Et le jeune Cantimori est devenu fasciste, fasciste de gauche, il disait. Et ensuite, il a épousé une femme remarquable, Emma Cantimori Mezzomonti, et elle était militante communiste cachée. Elle travaillait dans le Secours Rouge, c'est-à-dire que l'aide, disons, aux communistes qui faisaient de l'underground work en Italie, pendant le fascisme. Et Cantimori, disons, a été, disons, un écrivain fasciste, un prof... mais en même temps, il y avait quelque chose de dessous. Et je parle de ça parce que il a découvert, et il a parlé dans son livre, un phénomène qui avait été ignoré après le XVIe siècle, c'est-à-dire le fait qu'il y avait en Italie, et pas seulement en Italie, mais en Italie, des gens qui étaient des protestants cachés et qui, disons, pratiquaient la simulation. Alors lui, Cantimori, qui pratiquait la simulation lui-même en tant que militant fasciste, mais disons avec disons derrière ça il y avait disons une attraction pour les communismes. Et lui il a découvert ça au XVIe siècle. Et il appelait ça, ces gens-là avaient été appelés par Jean Calvin qui avait écrit contre eux les Nicodémites. comme Nicodème avait été un disciple caché de Jésus. Mon deuxième livre, Il Nicodémisme, était dédié à la mémoire de Cantimori.
Alors, c'est un livre qui n'est pas traduit, ou pas beaucoup traduit, non? C'est parmi les livres.
J'ai résisté à l'idée de les traduire. Uh-huh. On m'a proposé de les traduire en allemand il y a longtemps, mais j'étais pas content. Et oui, il faudrait les refaire. Je ne sais pas. Maintenant, peut-être. De toute façon, on va voir. Mm. On va voir. Mais disons, après la guerre, Cantimori est devenu membre du Parti communiste italien après la défaite du Parti communiste en 1948. Et ensuite, il a quitté le parti en 1956. Mais tout ça, pour moi, c'était, disons, une histoire que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Et, disons, la complexité de cet homme, c'est quelque chose qui m'a surpris et que j'ai compris peu à peu. Italo Calvino, cet écrivain italien que peut-être vous connaissez, alors il a dit, je me rappelle, dans une conversation, il était ami de ma mère et j'ai eu de l'amitié avec lui, même si j'étais beaucoup plus jeune. Et Calvino m'a dit, oui, Cantimori, le style de Cantimori, avec ses parenthèses, etc., c'est comme un oignon. On va épeler le oignon, mais c'est interminable. Et alors, il y a cette complexité. Alors, j'ai compris, disons, la complexité du style de Cantimori à travers son enseignement et à travers sa façon de lire les textes.
En fait, aussi, il y a quelque chose de cette question de peler les oignons. C'est aussi, disons, il y a quelque chose avec les pratiques philologiques, on peut dire.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, donc, ça, c'est donc quelqu'un qui, comme il s'avère, n'est pas très connu aujourd'hui en dehors de l'Italie. Il est, en tout cas, tant que je sache, je n'ai pas, dans la bibliothèque de UCLA, par exemple, trouvé des choses de lui en anglais.
En anglais, non.
Non.
Et, c'est-à-dire qu'il y a eu une traduction de son livre, son grand livre sur les hérétiques italiens, par Werner Kegi, les biographes de Burckhardt. En allemand, une traduction qui est parue après la guerre. La traduction anglaise avait été confiée, en fait, choisie par Francis Yates. Mais malheureusement, non, ça n'a pas marché.
Okay. Ouais. Donc, passons à un autre nom. Un nom là où, contrairement au cas de Cantimori, est très connu dans le monde entier. Et je vais peut-être dire deux, trois choses sur lui. Ça, il s'agit de quelqu'un donc Carlo a beaucoup écrit. Il y a même un livre de toi en espagnol qui s'appelle justement « Cinco reflexiones sobre Marc Bloch ». Mais ça n'existe pas en français en tant que tel, ni en italien, je crois. Non. Alors, donc Marc Bloch. Marc Bloch, c'est quelqu'un qui a, si j'ai bien compris, il a beaucoup compté pour toi. Alors, j'avoue que moi, comme j'ai été formé en Inde, Marc Bloch nous a été présenté sous une lumière un peu étrange. Parce qu'il y avait donc deux sortes de lectures, l'une pas très intéressante, l'autre d'ailleurs potentiellement assez féconde. Donc, il y avait des lecteurs qui ont plus ou moins transformé Marc Bloch en marxiste. Donc, il était présenté, surtout le livre sur la société féodale, on a remanié ça à partir de la traduction anglaise, qui est une traduction donc tronquée, et etc. Et on nous a dit qu'en effet, c'était plus ou moins un marxiste. C'était un peu tiré par les cheveux.
Ah, tout à fait.
Oui. Mais il y a l'autre aspect de Marc Bloch, et ça, c'est plutôt, je dirais, au milieu, à la fin des années 80, où il y a eu une récupération plus intéressante de Marc Bloch, c'est dans le cadre de l'histoire de l'écologie. L'histoire, donc, environnementale. Hein. Ça, je pense que ça a plus de sens. Hein. Mais néanmoins, pour nous, en Inde, on avait, si on prenait ces trois figures qui sont considérées parfois comme un peu la trinité des annales, en fait, donc là, on considérait celui qui était, entre guillemets, le plus important, c'était Fernand Braudel. Puis, il y avait Bloch et Lucien Febvre. Alors, tandis qu'en parlant avec toi, j'ai toujours eu l'impression que pour toi. Celui qui comptait, c'était sans aucun doute Bloch. Pour Fèbre, tu as une opinion, disons, assez un peu mitigée. Je vois que tu as toujours engagé avec ce livre le problème de l'incroyance, mais peut-être pas en tant que lecteur très convaincu. Et par rapport à Braudel, je pense que tu as une vue assez critique. Mais donc, laissons c'est de côté Braudel, parce que ça, c'est une autre affaire. Et parlons un peu de Bloch, et peut-être un peu de Fèbre, mais surtout de Bloch.
Oui.
Alors, pourquoi Bloch et qu'est-ce qu'il représentait pour toi?
Alors, je vais commencer mes études à Pise, à l'école normale, mais j'étais incertain sur, disons, entre histoire, philosophie, littérature, linguistique même. J'hésitais. Et après un an, j'ai lu Les Rois Thaumaturges. Alors, ce livre, à l'époque, le livre n'avait pas été réimprimé. À Pise, il y avait la première édition, 1928, je crois, publiée à Strasbourg, où Bloch a enseigné. Et c'est un livre. Sur, quelque chose de bizarre. La croyance répandue dans le Moyen-Âge, mais on va voir que c'était plutôt le long Moyen-Âge, en France et en Angleterre, que le roi légitime avait les pouvoirs de toucher et guérir les écrouelles. C'est-à-dire une maladie qui touche les glandes du cou, qui était très répandu parce que les conditions hygiéniques étaient mauvaises, etc. Alors, il a étudié ça. J'ai commencé à lire ça. C'est un gros livre. J'étais, étonné. J'aurais jamais cru que c'était possible d'écrire un livre sur ça ou, quelque chose de tout à fait marginal, paraît-il, pouvait devenir un instrument de compréhension de la perception du pouvoir monarchique en Europe, dans l'Europe du Moyen-Âge, jusqu'à Charles X en France, c'est-à-dire à la veille de la Révolution de Juillet. Incroyable. Et il y a un épigraphe, une ligne de Montesquieu, ce roi s'est tiré de lettres persanes. Ce roi est un grand magicien. Alors, l'idée que. Alors, d'une façon rétrospective, je comprends que j'ai été amené vers l'histoire en lisant ces livres. Je crois qu'il y avait deux raisons, mais ça, c'est plutôt de la lecture rétrospective. D'un côté, l'idée que un détail analysé d'une façon profonde peut révéler quelque chose de plus large et plus évident. Et ça, si vous voulez, ça a été pour moi la voie vers la micro-histoire. D'un côté. De l'autre côté, il y a le fait que Bloch a, démasqué un complot entre guillemets, c'est-à-dire l'idée que, les rois en France et en Angleterre pouvaient guérir les gens qui souffraient de la maladie des écrouelles. Alors, c'était quelque chose qu'il a démasqué en tant que, légende créée par le pouvoir monarchique pour renforcer le pouvoir monarchique. Alors, il y a un côté, ce sont les Lumières, c'est démasquer la légende construite par les pouvoirs politiques. Mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire la compréhension profonde de la croyance des gens qui parcouraient des distances incroyables pour se faire toucher. C'est-à-dire que, alors, je me rappelle qu'il y a longtemps, en lisant ça, j'avais souligné ça dans mon premier écrit sur Bloch. Alors, j'ai pensé à ce croquis. Il y a un croquis et aussi un capriccio. Je parle de Goya, ici, à Bordeaux. Il y a ce capriccio magnifique, mais le dessin aussi est tout à fait splendide. Et le titre est « Lo que puede un sastre ». Et on voit, disons, une femme agenouillée, et en face d'elle, il y a un mannequin avec un froc, et dans le froc, il n'y a rien. Alors, c'est-à-dire que la tension entre la compréhension pour les croyants, d'un côté, et de l'autre côté, la volonté de démasquer, qui était de Goya et de Bloch aussi. Bloch ne fait pas référence à ce croquis, mais pour moi, lorsque je pense au roi thaumaturge, je pense aussi à ce croquis de Goya.
Mais il y a aussi là quelque chose qui est quand même important, et je pense qu'on n'a pas besoin de trop marteler ou souligner le rapport entre ça, par exemple, et le type de démarche qu'il y a dans Fromage et les Verts. Mm. C'est-à-dire cette question, donc, le problème du regard avec une condescendance, comme disait Eric Thompson, et puis Edward Thompson, par rapport à le sujet rationnel qui est l'historien qui regarde avec mépris les irrationnels que sont les objets de ses études. Voilà, mais donc je pense que chez Bloch, il est très conscient de jusqu'où on peut aller et jusqu'où quelle ligne il faut probablement pas franchir, parce qu'à ce moment-là, on est un peu les rationalistes qui passent leur temps à démasquer les uns et les autres.
Oui, il y a les deux. Il y a les deux. Et c'est ça que je trouve fascinant. C'est-à-dire, oui, démasquer, mais en même temps, cette compréhension qui n'a rien de paternaliste pour, disons, on pourrait dire les victimes de la légende, mais en même temps, c'était ceux qui croyaient. Et la force, parce que le sous-titre, c'est, disons, le racine, je crois, j'ai oublié les titres, mais c'est à peu près les racines du pouvoir monarchique dans l'Europe médiévale, quelque chose comme ça. Alors, j'étais étudiant à Pise, et à l'époque, j'avais aussi rencontré Franco Venturi. Alors, Franco Venturi, c'était un grand historien d'un côté. Son premier livre, c'était « Jeunesse de Diderot ». Alors, son père, Lionello Venturi, était professeur d'histoire de l'art en Italie, et c'est l'un de 12 professeurs, disons, première classe, premier niveau, qui n'avait pas prêté les serments au régime fasciste. Mais, Venturi a quitté l'Italie avec son fils, et son fils, en fait, a été l'élève de Lucien Febvre. Et je dois dire que deux ans après ce serment imposé aux professeurs universitaires par le régime fasciste, ça a été, a impliqué aussi les professeurs qui commençaient leur carrière. Mon père était libero docente, il avait commencé sa carrière universitaire à Turin, il enseignait la littérature russe, et lorsqu'on a imposé ce serment au jeune professeur, il a refusé de prêter les serments et sa carrière universitaire est terminée. Il est mort en 1944, il avait passé deux ans en prison pour en tant que conspirateur antifasciste. Il est mort en prison en 1944 à Rome. Il avait été arrêté et reconnu torturé par les nazis, etc. Alors, si vous voulez, je crois que, disons, dans mon attitude à la gare de Bloch, il y avait aussi ça, le fait que, bon, l'historien, mais aussi le résistant, etc. Franco Venturi m'a dit, j'avais commencé à discuter avec lui, il avait connu mon père à Paris, et en fait, dans la première édition de son livre sur le populisme russe, il a une ligne où il dit, il rappelle l'amitié avec mon père comme une réincarnation originale du populisme russe. Alors Venturi m'a dit, ah, alors tu t'intéresses à Bloch. Est-ce que tu voudrais traduire les livres de Bloch, les caractères originaux de l'histoire rurale française? J'étais étudiant et j'ai dit, ben, je crois que je peux pas, je suis pas capable. De toute façon, on m'a donné 20 pages à traduire et ensuite je l'ai traduit. Alors, oui, c'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, j'ai commencé en traduisant Bloch et en étudiant Bloch. Il y a aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire la comparaison. Alors, dans les rois thaumaturges, au début, Bloch dit il y a deux types de comparaisons. D'un côté, il y a une comparaison ethnographique. On pourrait comparer les rois en tant que magiciens un peu partout dans des cultures différentes. Et à ce moment-là, disons, la référence explicite, c'est Fraser. D'une façon rétrospective, je me suis dit, mais pourquoi Fraser et pas Marcel Mauss? Je n'ai pas de réponse. De toute façon, c'était Fraser. De l'autre côté, Bloch dit, il y a une comparaison historique entre deux sociétés qui ont été, après les néolithiques, dans des rapports historiques, comme par exemple la France et l'Angleterre. Et il dit, je choisis de parcourir la voie de la comparaison historique. J'ai rappelé ça d'une façon explicite dans la préface de mon premier livre, Le Ben Andanti. J'avais étudié les Frioul et j'ai dit, alors j'ai rappelé Bloch et j'ai dit, pas de comparaison ethnographique, même si, j'ai dit, je vois des ressemblances qui sont liées, j'ai dit, j'ai écrit, à des connexions historiques. Je n'avais pas d'évidence pour ça, des documents, avec les chamans sibériens. Mais je ne parle pas de ça, je vais analyser seulement les phénomènes frioulins avec quelques digressions. Mais de toute façon, c'est les Frioul. Ensuite, j'ai essayé d'aborder aussi la comparaison ethnographique et j'ai écrit un livre qui s'appelle en français « Histoire du sabbat ». Mais, disons, cette tension entre la comparaison ethnographique, si vous voulez, la comparaison historique, c'est quelque chose qui m'obsède jusqu'à maintenant.
Mais en fait, là, comme tu as déjà touché un peu à cette question, je vais revenir sur un aspect que je me demande si c'est quelque chose qui marche un peu subconsciemment. Peut-être, peut-être pas. Parce qu'on connaît, tout le monde que te connaît, on sait que tu as été assez influencé par ta mère, qui était quand même une femme manifestement très, très forte intellectuellement, qui a beaucoup influencé, pas seulement toi, mais beaucoup de monde. Même si elle n'était pas historienne, elle était plutôt écrivaine. Et, elle a aussi écrit, romancière, mais elle a aussi écrit des livres qui ne sont pas de la fiction, comme ce fameux livre « Lexico familiare ». En français, je pense que c'est...
Le mot de la tribu.
Les mots de la tribu, voilà. Ouais. Mais en fait, il y a quelque chose, une question que je me suis souvent posée. Alors, ton père était en fait originaire d'Odessa.
Oui.
Il était donc juif russe au point de départ. Et donc, il est venu en Italie, mais il a continué à pratiquer le russe.
Oui.
Et il est devenu donc aussi enseignant. Il a aussi été traducteur de russe en italien.
Oui.
Et j'ai toujours trouvé ici, dans des différents endroits de ton œuvre, des moments quand tu es attiré vers la tradition intellectuelle russe. Alors, ça peut se dire, par exemple, sur l'analyse du chamanisme, ou même assez récemment, tu as regardé le cas de ce monsieur russe qui, finalement, a fini sa vie en Chine, je pense.
Ah oui.
Hein? Voilà. Mais, en fait, il y a quelqu'un en particulier, que je pense qu'on peut prendre un peu de temps pour parler de lui. Là encore, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, continue à être moyennement connu. Il était très, très connu dans le monde anglophone dans les années 80. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, était amené en France, c'est-à-dire son œuvre a été amenée en France par un ami qu'on a en commun, Tsvetan Todorov,
oui.
qui est donc Mikhail Bakhtin.
Oui.
Alors, Mikhail Bakhtin, grand interprète de la littérature, y compris la littérature française, parce qu'il a écrit ce livre majeur portant sur Rabelais.
Oui.
Mais aussi ce livre sur l'imaginaire dialogique. Alors, là, je vais un peu souligner ça pour deux raisons. Parce que, tout d'abord, je pense qu'il y a une chose qui est intéressante dans ton cas en particulier, mais plus généralement, c'est-à-dire que je pense que les historiens qui nous sont... Il y a des historiens qui sont très, disons, corporatistes, qui pensent qu'un historien doit être influencé que par des historiens. Mais je pense que la plupart des bons historiens ont tendance de puiser un peu ici et là. Et donc, je pense que quelqu'un comme toi, tu as lu d'autres historiens, mais tu as surtout aussi lu des anthropologues. Si on a le temps, on va peut-être revenir sur cette question-là. Des littéraires, mais aussi, par exemple, aussi des gens qui étaient des analystes de l'art, de l'histoire de l'art. Donc, on peut puiser un peu comme ça partout. Et Bakhtin, c'est un cas où je pense qu'il y avait un dialogue, une conversation assez féconde entre littérature et histoire qui, à un moment donné, mais je pense qui reste toujours, non?
Oui.
Alors, on peut peut-être aussi repenser un peu Bakhtin dans un cadre plus général des Russes, parce que, bon, on peut aussi revenir sur tout ce mouvement qu'il y avait, disons, dans l'Union soviétique, parce que ça, c'était pas quand même les intellectuels officiels, c'était des gens qui étaient un peu... aussi un peu des Nicodémites, il faut dire.
Oui. Hein?
Non et, oui. Et, mais Bakhtin en particulier, parce qu'on aurait pu parler, par exemple, de Jacobson, ça nous amène dans une autre direction. Mais Bakhtin.
Alors, j'ai lu Bakhtin en italien en 1968, son livre sur Dostoïevski. Et c'est un livre vraiment remarquable. Je ne savais pas que, en fait, à l'époque, Bakhtin était, disons, oublié. Et il était dans une ville de Provence, tout à fait marginalisé. Et en fait, le livre avait été redécouvert, parce que c'était un livre publié, je crois, en 1928 ou 1929. Il avait été redécouvert par un chercheur italien remarquable, Vittorio Strada, qui enseignait la littérature russe. Et il avait cherché Bakhtin, et en fait, j'ai découvert ensuite que l'édition italienne s'était, disons, basée sur un manuscrit remanié par Bakhtin. Et alors j'ai lu ces livres, et seulement ensuite j'ai lu, disons, la traduction française du livre sur Rabelais. Alors je pense que, disons, il y a pour moi, il y a deux Bakhtin, même s'ils sont liés, évidemment. D'un côté, il y a cette idée du dialogisme. C'est-à-dire, Dostoïevski, si vous voulez, mais l'idée que dans les romans de Dostoïevski, que j'avais lu, disons, avidement, malheureusement, je n'ai pas de russe, mais j'avais lu en italien, l'idée qu'il y a, disons, un dialogue, pas dans le sens, disons, américain du mot, c'est-à-dire un dialogue paisible, etc. Non, c'était le choc de deux visions du monde. Et il y a l'idée que, l'idée de Bakhtin, c'est que les narrateurs ne prennent pas position, c'est-à-dire qu'il y a les chocs, il y a la mise en scène du choc. J'étais fasciné par ça. Et disons que j'ai retrouvé ça... longtemps après, en lisant un texte que j'avais trouvé par hasard, peut-être on peut parler du hasard à un certain moment, mais j'avais trouvé par hasard à Florence, à la Bibliothèque Riccardiana, et j'avais redécouvert 10 ans après. C'est un texte d'un jésuite français, le père Legobien, qui, en 1700, il avait été impliqué dans la querelle sur les rites chinois. Mais ce texte, c'est un texte magnifique, sur... ça s'appelle l'histoire des îles Mariannes. Et je me rappelle qu'en feuilletant ce livre que j'avais trouvé par hasard, je suis tombé sur une harangue d'un leader d'une révolte contre les Européens, contre les Espagnols. Et ce type s'appelait Urrao. Et j'ai lu ce texte extraordinaire. Et lorsque, au début des années 90, j'avais été invité à Jérusalem dans une série de conférences où nous avons parlé les deux à distance, alors j'ai repensé à ce texte et alors j'ai écrit ce texte qui s'appelait « Les voies de l'autre ». Et où j'ai essayé d'analyser la voix de l'autre, c'est-à-dire le leader de la révolte contre les pouvoirs des Espagnols, dans un contexte où, évidemment, les narrateurs, disons, inscrivent cette voix, mais la voix est une voix qui implique un choc contre autre voix. Et dans ce cas, ce n'est pas Dostoïevski. Le père Legobien prend parti. Mais il y a cette harangue. Je me rappelle que lorsque ce texte de moi était encore inédit, j'étais à Londres et j'ai donné une conférence à la School of African and Oriental Studies. Et alors j'ai lu en traduction anglaise des passages de ce texte contre la domination coloniale, contre les Européens, et je me rappelle qu'il y avait un public très mélangé, et alors je me rappelle qu'un jeune homme est venu et a dit « Ah, mais ce texte est magnifique, etc. » Les textes parlaient encore. Alors, là, en analysant ce texte de Legobien, j'ai proposé quelque chose qui, en fait, c'était lié à ma lecture de Bakhtine, oui. C'est-à-dire le fait qu'il y a des textes dialogiques où il y a un élément dialogique, et j'ai dit aussi que dans tout texte, c'est-à-dire, c'était un peu audacieux, mais de toute façon, dans tout texte, celui ou celle qui écrit les textes ne peut pas contrôler les textes 100%. Il y a toujours un élément qui échappe au contrôle. Alors, je suis convaincu de ça. Et je pense que les implications de ça sont assez intéressantes.
Y compris pour, par exemple, ça aurait pu être, à mon avis, une réponse assez féconde à ce débat qu'on a eu, soi-disant, sur les subalternes peuvent-ils parler ?
Tout à fait.
Mais malheureusement, les gens qui ont lancé ce débat-là ignoraient l'autre
oui,
texte.
Le côté bakhtinien.
Voilà.
Oui.
Voilà.
Et en fait, alors je pense que, évidemment, cette réflexion que j'ai faisée, c'était aussi lié à des textes strictement dialogiques sur lesquels j'ai passé des années et des années, c'est-à-dire les procès d'inquisition. Mais là aussi, évidemment, je les lisais et je pensais à Bakhtine. Mm-hmm. Oui.
Voilà. Donc, en fait, ça, c'est un cas encore où contrairement à... Donc, Cantimori, c'est quelqu'un que tu as connu assez directement. Bloch, tu n'as jamais eu la chance de connaître. Il est mort, en fait, avant ta naissance. Non, il n'est pas mort avant ta naissance. Alors, donc, là, je viens à un quatrième personnage avec qui tu as aussi...
Tu dis troisième.
On a déjà passé trois et on arrive à...
ah oui, c'est vrai.
Voilà.
Quatrième.
Quatrième, oui.
Oui,
alors, donc, et ça, c'est quelqu'un à qui tu as intellectuellement des rapports, je pense, très, très proches. Moi, j'avoue que j'ai un peu de perplexité devant ça, même si je reconnais que la personne en question, c'est un très grand intellectuel, parce que pour moi, c'est quelqu'un dont l'approche est un peu difficile à mélanger avec l'histoire, et c'est notamment Claude Lévi-Strauss, hein, qui est donc, comme tout le monde le sait, le plus grand personnage de l'anthropologie française du XXe siècle, et même un peu du XXIe siècle. Et alors, donc, quelqu'un qui, d'ailleurs, a aussi eu, pendant son vivant, quelques querelles avec des historiens aussi, de querelles de méthode. Il y a eu un échange, d'ailleurs, pas très intéressant, il faut le dire, avec Brodel. La partie de Brodel est reproduite dans ses essais sur l'histoire. Mais pour toi, Lévi-Strauss reste quelqu'un qui est très important, notamment pour ce projet de comparaison.
Oui.
Et de comparaison, donc, qui n'est pas la comparaison à la Bloch, mais à notre stratégie de comparaison, c'est ça?
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Alors, pour moi, Lévi-Strauss a été, pendant des années, je dirais même des décennies, il a incarné la figure de l'avocat du diable. Vous savez que l'avocat du diable a été créé au début du XVIIe siècle par l'Église catholique pour gérer les procès de canonisation. C'est-à-dire que, alors, on dit tel ou tel individu est un candidat pour devenir un saint ou une sainte, et en principe, il y avait quelqu'un qui incarnait la figure de l'avocat du diable qui disait. Oui, qui posait des questions sournoises, difficiles, agressives même, etc., etc. Et la cause de canonisation devait surmonter ces objections. Je dois dire que récemment, j'ai évoqué l'avocat du diable en disant « J'imagine que pour cette cause, pour la canonisation de Pie XII, l'avocat du diable dirait « Mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait pour les Juifs pendant la guerre ?» On m'a dit « Mais l'avocat du diable n'existe plus. » Mais je pense que, du point de vue intellectuel, et je l'ai écrit, en fait, je me rappelle qu'on m'a interviewé une fois et j'ai parlé longuement de l'avocat du diable et j'ai dit « Je pense que tout chercheur doit introjecter la figure de l'avocat du diable. Il faut entamer un dialogue avec l'avocat du diable, mais il y a un risque, c'est-à-dire de apprivoiser l'avocat du diable. Et alors, évidemment, le jeu ne marche plus. Mais, disons, l'idée que Lévi-Strauss, pour moi, a été l'avocat du diable, dans quel sens? Parce que, alors je me rappelle, lorsque j'ai découvert Lévi-Strauss, j'avais commencé à travailler sur les procès des sorcières, et un ami, Giulio Leps, qui est un linguiste, qui a ensuite a écrit un livre sur le structuralisme en linguistique qui a été traduit en plusieurs langues, y compris les français, il m'a parlé d'un livre qui venait de sortir, « Anthropologie structurale ». C'était, je crois, en 1959. Le livre était sorti peut-être une année avant. Alors, je me rappelle que j'ai feuilleté les livres et j'ai commencé à lire. Cet essai qui s'appelle « Le sorcier et sa magie ». Ah ! Pour moi, c'était un autre monde. Alors là, il y a un problème de contexte. C'est-à-dire qu'en Italie, disons, les sciences sociales ont été, disons, attaquées il y a longtemps par Benedetto Croce. Et en fait, j'avais lu un livre d'un anthropologue italien remarquable qui a été, disons, c'est-à-dire Ernesto De Martino, qui avait été élève d'une façon informelle de Benedetto Croce, et son ouvrage a été traduit en français, et il y aura un colloque à Blois dans l'automne, on m'a invité, on va parler de lui, etc. Et il a écrit un livre qui a été traduit au moins deux fois, je crois, en français, « Le monde magique », qui a été un livre très, très important pour moi. De Martino pourrait être, disons, un sixième ancêtre. Mm-hmm. Mais, disons, De Martino, c'est tout à fait autre chose par rapport à Lévi-Strauss. Dans quel sens? Dans le sens que Lévi-Strauss est vraiment ahistorique dans son approche et même, comme tu as rappelé, parfois anti-historique. C'est ça que j'ai trouvé fascinant. Dans ce sens, il était vraiment l'avocat du diable. C'est-à-dire qu'il me disait, il m'a posé des arguments, il m'a formulé des hypothèses ou des thèses qui allaient dans un sens qui m'était tout à fait étranger.
Mais là, en fait, l'intérêt, c'est aussi, si je ne me trompe pas, de choisir un avocat du diable qui serait à la hauteur. Hein? Donc, par exemple, je sais qu'il y avait d'autres qui ont pratiqué d'une façon plus ou moins lâche, un genre de structuralisme pour lequel tu n'as pas beaucoup de patience. Donc, juste pour mentionner un nom, par exemple, tu as écrit, par exemple, d'une façon extrêmement critique sur quelqu'un comme Mircea Eliade.
Alors Eliade, non mais c'était alors disons pour Lévi-Strauss, Eliade n'existait pas.
Voilà, c'est ça. Rien. Ah, c'est ça. Ah, oui. Donc c'est aussi une question de trouver donc des désaccords, mais des désaccords qui sont féconds. Oui. Et qui, donc, c'est quoi, disons, la garantie de plus ou moins de la fécondité? La garantie, ça serait plus ou moins, disons, une espèce de pensée rigoureuse.
Oui.
Hein, donc, même si on n'est pas forcément d'accord sur les postulats, oui. Mais par la suite, la façon de procéder est rigoureuse, ça c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a autre chose?
C'est-à-dire que, alors, il y a évidemment la rigueur intellectuelle, les niveaux extraordinaires, la qualité intellectuelle de l'œuvre de Lévi-Strauss. De l'autre côté, oui, l'idée que, disons, on ignore l'histoire, le temps et l'espace peuvent être, disons, ignorés dans une perspective qui a des implications puissantes. Alors, j'ai été fasciné par ça. En fait, dans les livres dont j'ai mentionné les titres, Histoire du sabbat, en italien, ça s'appelle Storia notturna. Malheureusement, lorsque on a traduit, on m'a proposé de traduire mon premier livre, I ben andanti, j'ai pensé, non, les ben andanti, c'est pas possible. Alors, j'ai proposé moi-même le titre Les batailles nocturnes, un beau titre, je pense, mais... Ensuite, Storia notturna, c'était pas possible.
Oui, deux fois le même titre. Oui,
oui, c'est pas possible. De toute façon, dans ce livre sur les sabbats, j'ai utilisé, disons, soit l'histoire, soit la morphologie en tant qu'outil pour l'histoire. Et c'est quelque chose qui me fascine, c'est-à-dire que je viens de republier ces livres et avec une postface publiée en italien, une postface qui s'appelle médailles et coquillages. Et ça se rattache aux deux côtés de l'œuvre des antiquaires fin XVIIe siècle, XVIIIe siècle. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait l'antiquaire soi-disant civil, c'est-à-dire qui travaillait sur les médailles, à principe, c'est-à-dire des objets matériels qui, disons, impliquait des traces des civilisations disparues, etc. etc. De l'autre côté, il y avait le coquillage. Mais les coquillages aussi étaient des documents. Et alors, j'ai redécouvert cette liaison étroite chez les antiquaires, soit anglais, soit français, parce qu'au début du XIXe siècle, Cuvier dit « Je suis un antiquaire de nouvelles espèces ». Mais quelqu'un l'avait dit avant lui. De toute façon, il y a, c'est-à-dire le mot « antiquaire » pour tout historien évoque un grand article de Arnaldo Momigliano. Lui aussi pourrait être un ancêtre. Il a été pour moi un ancêtre dans ce sens. Et Momigliano a publié en 1950 un grand article qui existe en français aussi, qui s'appelle Ancient History and Antiquarians. Antiquarians. C'est-à-dire l'histoire ancienne et les antiquaires. Et c'est un article magnifique qui, disons, a été relu, retravaillé, etc. Mais ce que j'ai découvert. Lorsque j'ai écrit cette postface qui est parue, je crois, l'année dernière, j'ai découvert que Momigliano avait ignoré, mais il savait tout, avait décidé d'ignorer le côté coquillage, c'est-à-dire la liaison entre les deux faces de la recherche des antiquaires. Et là, j'ai formulé une hypothèse, c'est-à-dire que il était sous l'influence de Croce. Croce avait été très important pour lui. Il avait été aussi très important pour mon père. En fait, Croce, Benedetto Croce, avait insisté avec mon père et il avait dit « Tu dois prêter les serments au régime fasciste. On ne peut pas laisser l'université aux fascistes. » Mon père a dit non. De toute façon, j'ai lu Croce. J'ai lu Croce à distance. J'ai retrouvé l'influence de Croce chez Momigliano. Et alors, j'ai découvert, cette relation entre médaille et coquillage qui m'obsède. Je suis en train de travailler un peu sur ça.
Donc, je pense qu'on arrive plus ou moins en fin de notre discussion d'aujourd'hui, même si on aurait pu continuer, on avait peut-être d'autres noms.
Oui.
J'aurais, par exemple, voulu à un moment ou à un autre poser des questions, par exemple, sur des historiens de l'art. Et j'ai pensé dans ce contexte à quelqu'un comme Ernst Gombrich, quelqu'un qui vient de l'Europe centrale, qui s'installe en Angleterre, qui a donc beaucoup influencé les études de l'art, mais d'une façon indirecte a aussi, par exemple, influencé l'histoire indienne, parce qu'il a eu quelques élèves qui ont travaillé sur l'Inde, comme Partham Mitter. Son fils est devenu un grand spécialiste de l'Inde, Richard Gombrich. Mais je voulais juste poser une dernière question pour aller un peu dans un autre sens, et la question suivante. Quand on regarde la situation, par exemple, toi tu as fait tes études dans les années 40, 50, etc., on a l'impression que le monde historien, le monde intellectuel en général, mais peut-être particulièrement le monde historien, était un monde très masculin, non ?
Oui.
Hein ? Et les gens qui étaient là, qui étaient présents comme des maîtres, mais aussi ceux qu'on lisait, etc. Je suis plus jeune de 20 ans, 25 ans, alors là, par exemple, j'ai eu la chance parce que, en dépit du fait qu'on dit que l'Inde est un pays arriéré, la réalité, c'était que dans les années 70, on avait des grandes historiennes femmes, dont certaines que tu as connues, comme Romela Thapar. Bien sûr, c'était des femmes qui appartenaient à la grande bourgeoisie, normalement, parce que c'était ces gens-là qui pouvaient s'aventurer dans l'université, faire des doctorats, et ainsi de suite. Alors, est-ce que tu trouves que... c'est une question un peu contrefactuelle. Plus d'enseignants et une présence plus féminine à ce moment-là, quand tu as fait tes études, est-ce que ça aurait changé quelque chose au niveau de type d'histoire, au niveau de questions ou autre chose? Parce que là, aujourd'hui, on est dans une université qui est très différente, non?
Oui, d'accord, tout à fait, tout à fait. Non, c'est-à-dire que, évidemment, c'est contrefactuel, mais oui. C'est possible en tant que, hypothèse. C'est vrai que, j'ai tout appris de ma mère. C'est-à-dire que... L'idée, c'est-à-dire que mon rapport avec la narration, par exemple. C'est lié à ma mère, d'une façon directe, dans le sens que, ce ne sont pas seulement ses livres, mais je me rappelle, par exemple, alors j'étais presque, j'avais 10 ans peut-être, elle m'a dit, tu sais, il y a un conte sur quelqu'un qui... se réveille et il s'est transformé dans un insecte.
Ah.
Et alors, j'ai jamais oublié ça. J'ai lu Kafka, mais peut-être 10 ans après. Mais alors, il y avait quelque chose dans ce qu'elle disait que c'était inoubliable. Alors, dans ce sens, oui, j'ai pas eu, de professeurs. Femme, mais pourtant, que les côtés féminins de la transmission de l'expérience a été au centre de ma trajectoire. Oui, c'est pas une réponse.
Non.
Merci.
C'est bien. Hein. Merci.